À la chute de l'Union soviétique, la Russie a dû se résigner à devenir un pays comme un autre, ni pire ni meilleur. Désormais, grâce au pan le plus nationaliste et pseudo-scientifique de la philosophie russe, Poutine rend à la Russie sa vocation idéologique internationale. Le conservatisme identitaire doit devenir un phare pour tous les peuples du monde. La mobilisation conservatrice initiée et dirigée par le Kremlin n'a plus de frontières. L'URSS n'était pas un pays, mais un concept. Avec Poutine, la Russie est à nouveau le nom d'une idée. Michel Eltchaninov est ce soir notre invité. Sa réédition dans la tête de Vladimir Poutine va pouvoir être accessible dans quelques jours. Je viens d'en lire un court extrait dans sa conclusion. Et nous avons aussi la chance d'avoir dans ce plateau un autre philosophe, Alexander Bykov, qui est à la fois philosophe, sociologue, ancien directeur du Centre de philosophie contemporaine et des sciences sociales du département de philo de l'Université de Moscou. Mais entre philosophes, messieurs, nous allons commencer en musique en écoutant d'autres philosophes. Je veux parler des Rolling Stones. Alors d'abord quelques mots sur cette chanson géniale des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. C'est Bulgakov ?
Oui, en fait, Mick Jagger l'a écrite en s'inspirant du Maître et Marguerite de Bulgakov. Vous savez, cette histoire du diable qui était là au moment de la Passion du Christ et qui revient dans la Russie soviétique des années 20 pour installer un énorme désordre. Et en fait, c'est une chanson sur la violence, sur le mal qui court au XXe siècle. Alors, c'est dans la chanson, évidemment, il y a la Révolution russe, la Seconde Guerre mondiale, l'assassinat des Kennedy. Et c'est l'idée que le mal court. Et c'est vrai que cette idée que la violence, la guerre, le mal sont là, sont cachés, mais reviennent aujourd'hui avec cette terrible guerre en Ukraine, ça nous revient au visage. Et donc c'est une chanson qui dit la présence du mal, de la violence et de la guerre malgré tout aujourd'hui en 2022.
Vladimir Poutine a-t-il lu Mikhaïl Bulgakov?
Il a, à ma connaissance, il n'en a jamais parlé. Il l'a certainement lu. Ça a été réédité pendant la perestroïka. Ça avait été interdit pendant des décennies. Mais je pense qu'il est inspiré aussi par cet auteur qui a écrit aussi la Garde Blanche sur la guerre civile en Ukraine. Je vous rappelle que Bulgakov est de Kiev et on peut visiter sa maison musée à Kiev, une ville qui est aujourd'hui attaquée.
Nous sommes aujourd'hui en pleine tragédie de cette guerre en Ukraine. Vous aviez publié il y a quelques années un livre qui est augmenté d'un nouveau chapitre intitulé « La montée aux extrêmes ». Vous avez eu la curieuse et étrange idée, mais ô combien efficace, d'essayer de comprendre la personnalité de Vladimir Poutine par les lectures qu'il fait, et ce depuis une bonne quarantaine d'années. Et même plus, en tant que philosophe, Michel Elchaninov, d'essayer de comprendre comment la philosophie a influencé son comportement politique et peut-être construit son idéologie. Vous êtes parti, je crois, d'un fait, là aussi, très étrange, qui éclaire peut-être la personnalité de Poutine. C'est que Poutine, le 1er janvier de chaque année, avait l'habitude d'offrir des cadeaux à sa garde rapprochée, et ces cadeaux étaient des livres de philosophie. Pourquoi ?
Parce que Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir en 2000 en Russie, peu à peu a compris, a voulu ouvrir une nouvelle page de l'histoire russe. C'est-à-dire incarner quelqu'un qui allait rester très longtemps au pouvoir pour raconter, pour écrire, pour être l'acteur principal de l'histoire de la Russie post-soviétique. Et donc il a voulu, d'année en année, essayer d'étoffer en fait son discours, à la fois pour mobiliser ceux qui l'écoutent, mobiliser effectivement sa garde rapprochée, mais aussi, pourquoi pas, les intellectuels, le peuple, etc. Mais aussi intéresser à l'étranger. Et donc il a voulu étoffer son discours en proposant une sorte de vision de la Russie qui serait, d'après lui, fondée sur des auteurs qu'on lui a donné à lire, qu'il prétend lire. Alors, je pense pas que Vladimir Poutine soit un grand intellectuel, et puis il s'intéresse plus à l'histoire, sans doute, qu'à la philosophie, mais il a voulu donner une assise intellectuelle à son discours, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, en fait, tout simplement en prenant tous les discours qu'il a prononcé depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, en décortiquant un peu ce qu'il dit, en voyant les références qu'il mobilise, et ensuite en allant chercher dans les livres qu'il cite des assises pour tenter de reconstruire une forme de doctrine Poutine.
Alors on voit bien qu'au début de sa gouvernance, Vladimir Poutine cite Hegel. Et petit à petit, il s'affranchit de Hegel et il va se trouver sous l'emprise, je ne sais pas si le terme est trop fort, de philosophes, auteurs de traités mystico-politiques, et petit à petit, son esprit va être influencé par l'idée d'une hyperpuissance. Est-ce que les lectures qu'il a faites au fil des décennies où il occupe encore le pouvoir aujourd'hui ont construit cet appareil idéologique? Et est-ce que ça a provoqué une croyance forte que ces idées, basé sur des doctrines philosophiques plus ou moins fumeuses, ben ces idées, il y croit, et pour lui, c'est la vérité.
Est-ce qu'il y croit? C'est très difficile à dire. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il s'enferme dans son idéologie. Ça fait plus de 20 ans qu'il l'a construit. Effectivement, vous avez raison, au début, il citait des auteurs occidentaux. Il a par exemple beaucoup cité Emmanuel Kant, le grand philosophe des Lumières, en disant que l'Europe était construite sur le droit, sur la recherche de la paix. Il disait même que sa génération était celle qui allait incarner et installer la paix en Europe. Donc ça, c'était au début, c'était en 2000-2004. Et puis progressivement, sous l'influence de ses conseillers, sans doute, notamment Il y avait le cinéaste Nikita Mikhalkov qui avait trouvé un livre dont on parlera peut-être d'Ivan Iljine, qu'il a donné à lire au président. Et puis, un peu déçu par l'Occident, déçu par l'Europe, Vladimir Poutine s'est mis à lire des ouvrages, à citer ces ouvrages, qui au contraire offrent l'image d'une Russie qui est une civilisation à la fois différente et même opposée à l'Europe occidentale. Et donc à construire un discours dans lequel la Russie incarnait une civilisation alternative qui allait peu à peu peut-être s'imposer dans l'histoire.
Alors ce qui est assez étonnant à l'intérieur de votre recherche, Michel Etchaninov, c'est que on voit la progression mentale et psychique et intellectuelle de Vladimir Poutine. Vous venez de le rappeler, au début, dans les années 2000, il est un fervent européen. Il prononce des discours. Je vais vous citer, parce qu'aujourd'hui, en plein drame de l'Ukraine, on a quand même du mal à comprendre que c'est le même homme qui a dit ceci, je cite Vladimir Poutine, à la question qu'on lui demandait si la Russie était plutôt tournée vers l'Europe ou l'Asie, il répondait, en 2003, « D'un point de vue géographique, la Russie, bien sûr, est un pays eurasien, mais la Russie, sans aucun doute, est un pays européen, parce que c'est un pays de culture européenne. » Et Vladimir Poutine ajoutait cette même année, en 2003, « Qui peut être intéressé chez nous à une confrontation de la Russie avec le reste du monde ?» et avec l'un des États les plus puissants du monde, les États-Unis. Qui cela pourrait-il donc intéresser ? Ces gens-là n'existent pas. Donc à partir de quel moment y a-t-il eu basculement idéologique et politique dans la tête de Vladimir Poutine ?
Je crois qu'il a, à partir de à peu près 2003-2004, en 2003, il y a la révolution des roses en Géorgie. Une population proteste contre des élections frauduleuses et installe un jeune dirigeant pro-européen et pro-américain, Mikhail Saakashvili. En 2004, il y a le Maïdan en Ukraine. C'est le même mécanisme, une population qui proteste contre une élection truquée et qui installe un leader pro-européen. Il y a aussi, dans ces mêmes années, l'adhésion de plusieurs pays européens, et notamment de l'ancien bloc de l'Est, à l'Union européenne ou à l'OTAN. Et là, Vladimir Poutine considère que on l'agresse, on l'attaque. Il est persuadé que ces révolutions démocratiques sont le fait de forces spéciales. Il a du mal à imaginer qu'un peuple puisse faire une révolution sincèrement. C'est sans doute sa formation d'ancien agent du KGB qui le pousse à penser cela. Et donc, peu à peu, il se met en position de forteresse assiégée. C'est-à-dire que pour lui, la Russie, dans son esprit, devient un pays qui est jeune, qui est puissant, qui renaît de 70 ans de communisme, mais dont l'Occident est jaloux et que l'Occident cherche à repousser dans un coin, comme il le dit lui-même, ou alors à diviser, ou alors à affaiblir. Et Vladimir Poutine met en place une mécanique mentale qui est en fait assez simple, qui consiste à dire qu'on a voulu humilier la Russie après la chute de l'URSS, qu'on veut aujourd'hui l'affaiblir, mais qu'elle a le droit de revenir dans le concert des nations, même de manière agressive. Et ça, il le dit depuis maintenant des décennies.
Je vois Alexandre Bykov qui sourit. Vous êtes un spécialiste de l'impossible, si j'ose dire, en tant que philosophe et sociologue, puisque depuis des années, vous essayez de comprendre ce que ça veut dire l'opinion publique en Russie. Tâche ô combien philosophique, étant donné les difficultés d'accès à l'information. Souscrivez-vous aux thèses de Michel Etchaninov ? Pensez-vous qu'il y a eu une évolution, voire une transformation de la doctrine poutinienne de l'Europe ? Pour vous, Alexandre Bykov.
Je ne pense pas d'avoir connu Vladimir Poutine aussi intimement que Michel, et je n'ose pas dire que je peux jeter un regard dans sa tête. Ce que je trouvais important, c'est de voir la pratique gouvernementale, la pratique administrative, la pratique politique, prendre en considération les réseaux d'experts qui entourent Vladimir Poutine, et ce qu'on peut constater justement au départ de son terme interminable, c'était plutôt les experts de tendance pro-européenne ou pro-américaine qui l'entouraient. C'était plutôt des personnes issues de la vague de la démocratisation de l'époque de Yeltsin, qui sont restées avec lui, autour de lui, jusqu'à 2011-2012 à peu près. Et assez paradoxalement, les plus puissants de ces personnes en étaient virés peu avant les grandes manifestations de 2011, de décembre 2011. Et ça, c'est déjà un fait assez assez inattendu, dans le sens qu'on aurait pu imaginer les réactions, alors le changement du corps d'experts comme une réaction à ces événements. Pourtant non, c'était en partie le cas, mais il y avait des experts qui en étaient éloignés, selon le vocabulaire russe de l'époque. On était éloignés du Kremlin juste avant. Et alors, qui a pris la place de ces experts? Il y en avait, selon les informations qui sont difficilement justifiables, plutôt des officiers, des ex-officiers des services, des militaires. Et ça se voit malheureusement dans les visions de la guerre, dans le modèle de la guerre d'aujourd'hui, puisque visiblement personne a conseillé lors de l'élaboration de cette stratégie de guerre, de ce calcul désastreux. Il n'y en avait pas évidemment parmi les experts, les sociologues et les psychologues, parce que la question fondamentale qui aurait dû être posée, comment on traite avec la population ensuite, après la guerre, n'a jamais été visiblement discutée au sérieux.
Vous voulez dire, Poutine voulait faire la guerre, mais il s'est pas intéressé tout de suite, et même avant de la déclencher, aux conséquences de cette guerre.
C'est pas probablement Poutine, parce qu'on parle toujours de Poutine comme si c'était une personne qui décide.
Effectivement. Oui, alors ça nous intéresse beaucoup, parce que nous, on se dit, c'est un seul individu qui provoque le désordre mondial et cette tragédie.
Visiblement pas, c'est un modèle social, d'interaction sociale qui le provoque. Et justement, Poutine, à l'intérieur de ce modèle, il s'isole beaucoup, et suite au Covid, on voit bien ces distances énormes par rapport aux autres individus, Emmanuel Macron à distance de 20 mètres à l'autre bout de table, etc. C'est quelque chose qui augmente cet effet, mais ce que l'a précédé, ça a été déjà une installation de systèmes de connaissances intimes, de cercles très serrés, de conseils, si vous voulez. Et justement, ce que je voulais ajouter, déjà à partir du début des années 2000, on voit assez clairement que parmi ces experts se trouvent aussi les gens de l'Église, plutôt de la fraction la plus conservatrice. Et ce concept de la Russie insultée, de la forteresse assiégée, c'est moins les philosophes, disons, des années 20 ou avant qui ont proposé ou qui ont avancé ces idées, c'est plutôt une doctrine de cette taille, de cette fraction conservatrice de l'Église orthodoxe qui commence à s'installer à partir de la fin des années 80.
Alors ça, Michel Etchaninov, vous insistez beaucoup, notamment dans le deuxième tiers de votre livre, sur l'influence effectivement religieuse sur Vladimir Poutine. Vous dites qu'au début de son règne, il était plutôt loin de ses influences religieuses et que petit à petit, aurait-il instrumentalisé l'Église orthodoxe notamment, ou a-t-il opéré un chemin, entre guillemets, spirituel pour asseoir ses propres convictions ?
En tout cas, assez rapidement, dès les années 2004, Vladimir Poutine insiste sur les racines religieuses de la moralité. Après la tragédie de Beslan, vous savez, c'est quand des terroristes tchétchènes ont pris en otage tout le personnel d'une école, après un assaut désastreux qui a provoqué la mort de dizaines de civils, notamment de nombreux enfants, Vladimir Poutine s'est demandé comment lutter contre l'extrémisme religieux. Et donc, il a réfléchi. Et il a proposé une réponse assez paradoxale en disant que finalement, il faut réhabiliter l'Église orthodoxe, il faut se rapprocher du patriarcat de Moscou et dire que la moralité, l'éthique doit avoir un fondement religieux pour empêcher l'extrémisme. Vous voyez, c'est une sorte de réflexion presque sophistiquée. Et Vladimir Poutine, à partir de ce milieu des années 2000, effectivement, a souvent cité, quand il parlait de l'Europe, il a arrêté de citer l'Europe des droits d'Emmanuel Kant, et il s'est mis à citer l'Europe des racines chrétiennes, c'est-à-dire les racines byzantines et romaines de l'Europe. Et donc Vladimir Poutine a ajouté une corde idéologique à son arc. Il avait en lui une corde que j'appellerais soviétique, c'est-à-dire non pas du tout le marxisme-léninisme auquel il a jamais cru, comme il l'a dit d'ailleurs, mais l'exaltation de la grande nation soviétique qui s'oppose aux États-Unis, le patriotisme, la capacité de se sacrifier pour combattre le nazisme, envoyer l'homme dans l'espace, etc. Un soviétisme assumé. Il lui a ajouté une touche pré-révolutionnaire qui est celle de l'Église orthodoxe, qui a donc été quand même persécutée à plusieurs moments de l'histoire soviétique, en disant qu'il faut, voilà, il faut rajouter cette corde conservatrice à son idéologie, et peu à peu, il a ajouté des touches pour créer un maelstrom idéologique qui, au fond, n'a pas forcément une grande cohérence, où il y a du soviétisme, où il y a du conservatisme religieux, où il y a aussi l'exaltation d'une voix russe séparée du destin de l'Occident, et donc, il a construit comme ça une espèce de soupe idéologique dont l'objectif était de soulever l'enthousiasme de ses concitoyens, mais aussi de séduire beaucoup de personnes dans le monde entier.
Le peuple russe adhère à son idéologie, qui certes est construite de plusieurs éléments disparates et qui ne sont pas homogènes, selon vous ?
Je crois qu'il y a eu un grand moment d'adhésion au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des sondages qui donnaient la cote de popularité de Vladimir Poutine à 90%. Ensuite, je pense qu'il faut qu'Alexandre réponde sur le côté sociologique de la chose. Mais je crois que c'est compliqué. C'est-à-dire que les Russes ont eu ce moment d'exaltation nationaliste au moment où Vladimir s'est emparé de la Crimée. Mais que très rapidement, si on parle de maintenant, les difficultés sociales, économiques qui sont énormes du pays ont quand même repris le dessus dans les préoccupations des citoyens russes.
On fait la guerre, Alexandre Bykpov, parce que le pays va mal économiquement, donc c'est une diversion par rapport aux infrastructures et à la réalité de la vie quotidienne ?
Non, je ne dirais pas. Vous m'avez donné une caractéristique de quelqu'un qui étudie l'opinion publique. Je dirais plutôt que j'ai étudié l'opinion publique en action, c'est-à-dire les manifestations, les mouvements de protestation, les formes d'expression de désaccord, de doute, des critiques. Et là, je peux dire que à la fin de 2011 et durant le 2012, on observe une constitution de l'espace public qui n'existait pas depuis 20 ans en Russie. Évidemment, cet espace public existe aujourd'hui. Même, il est encore plus fort, si vous voulez. Sauf que, il est exposé à des répressions de plus en plus senties, de plus en plus cruelles. Effectivement, c'est quelque chose, et ce sont des personnes, des ONG, des associations, le mouvement féministe, le mouvement anarchiste, tout type de libre association d'esprit et de corps, qui s'opposent à la guerre, soit pour des raisons éthiques, ce qui est évident, soit, comme dans le cas, par exemple, des milieux qui gardaient plutôt le silence jusqu'à ce moment-là, en majorité, les milieux universitaires, qui se sont menacés dans leur exercice de métier tout à fait naturellement. Et c'est plutôt ça qu'il faut probablement voir comme le contrepoint de la situation, plutôt que la crise économique ou la situation structurelle, puisque pour le moment, on peut dire que l'économie ne marchait pas très mal. Le transport de gaz et de pétrole fonctionnait et devrait fonctionner encore mieux vers l'Europe. C'est plutôt un modèle, si vous voulez, une dégénération des rapports à l'intérieur de ces structures du pouvoir qui sont très opaques, très peu observables, qui ont eu aussi un impact de Covid, de l'épidémie, de l'extrême sécurité d'accès et de la déconnexion de couches et de milieux différents sociaux, publics, etc., qui ont permis, dans un certain sens, qui ont créé une pause durant laquelle la guerre a été conçue.
Si je vous comprends bien, Alexandre, ces manifestations de la part de contestataires à Vladimir Poutine, ces contestataires qui prennent les risques les plus forts, puisqu'ils risquent d'être emprisonnés et peut-être ne jamais sortir d'ailleurs de prison, ces contestations qui sont de plus en plus contagieuses en Russie, sont l'effet et la conséquence directe de l'engagement de Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine.
Peut-être pas les contestations en tant que telles, mais sûrement...
Ça avait commencé avant, mais ça s'est amplifié.
Sûrement, ça a contribué à partir de 2011 à l'établissement de cette réaction ultra-conservatrice et en décision de ne pas pouvoir dialoguer avec la population, parce qu'une partie de la population qui est silencieuse, alors rien de parler autour, non ? C'est-à-dire, on observe plutôt le silence et l'assurance que n'importe quelle action gouvernementale pourrait être acceptée, pourrait être adoptée par ce silence, dans le cadre de ce silence, dans ce contexte. Une partie de population à qui Vladimir Poutine aurait pu penser de contribuer de bienfaisance, de liberté, etc., au lieu d'être reconnaissant, s'est opposé à partir de 2011 et ne cesse pas à s'opposer à partir de ce moment-là.
Donc c'est bien un modèle occidental de démocratie avec la construction d'une opinion publique qui est en train d'émerger, et ce depuis 2011, et qui s'amplifie à cause de l'engagement de la Russie dans la guerre en Ukraine, selon vous, Alexandre ?
Probablement pas un terme classique, puisque la démocratie représentative implique l'existence des institutions de médiation, tandis que c'est exactement ça ce que le gouvernement actuel et les gouvernements précédents n'ont pas voulu mettre en marche. Et ça a été aussi une des sources très importantes de la protestation, puisque ceux qui protestaient, c'était surtout les gens qui lisaient, à la différence de Vladimir Poutine en personne, beaucoup, qui étaient les diplômés universitaires, les personnes engagées dans la production culturelle, dans la plupart des cas, justement, beaucoup plus renseignés par rapport à ce qui se passe en Europe, beaucoup plus ouverts vers le monde extérieur. Ils étaient plutôt les demandeurs de changement de l'ordre politique qui était déjà insuffisante et, si vous voulez, peu compatible avec le développement économique de la Russie.
Donc, si je vous comprends bien tous les deux, il s'agit d'une crise extrêmement profonde dont les racines remontent à quelques années. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il menacé de faire la guerre? Pourquoi les Occidentaux ne l'ont-ils pas cru? Et pourquoi Vladimir Poutine a-t-il continué à faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, selon vous, Michel Etchaninov?
Moi, je crois que si les leaders occidentaux n'ont pas véritablement cru à la guerre, sauf les services de renseignement américains qui ont toujours dit qu'il y allait y avoir une invasion massive, mais que c'est vrai que, par exemple, en France, on ne croyait pas trop, il y a peu de leaders politiques qui étaient aussi affirmatifs que les renseignements américains, c'est que je crois que la conviction d'un grand leader politique occidental, c'est que leur interlocuteur est utilitariste. C'est-à-dire qu'il va chercher à agir de telle manière à examiner les conséquences de ses actions et à voir si elles visent ou non à maximiser l'intérêt public. Et donc, les gens se disaient, mais Vladimir Poutine ne va pas aller au-devant de sanctions importantes et donc ne va pas déclencher la guerre. Or, Poutine n'est pas utilitariste.
Il n'avait pas intérêt à faire la guerre.
Pour la prospérité de son pays, pour les profs d'université qui peut-être l'année prochaine ne pourront pas faire leur rentrée des classes parce qu'il n'y aura pas assez de financement, pour l'économie, etc. Il n'avait pas d'intérêt social et économique à faire la guerre. Et pourtant, il l'a faite. Et c'est une grande question qui se pose. Moi, j'essaie de raisonner en termes de philosophique. Je pense que Vladimir Poutine n'est pas utilitariste, même s'il peut être parfois très pragmatique. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans une vision du monde, dans une idéologie qui consiste à dire que, véritablement, il y a une sorte de combat civilisationnel entre une Russie appelée à déployer ses forces vitales et un Occident totalement et définitivement décadent, comme il le dit à longueur du discours depuis son tournant conservateur de 2013. Et donc, je crois que là, on est face véritablement à une difficulté de comprendre. Ensuite, je dirais que c'est pas parce que Vladimir Poutine dit depuis 20 ans que l'Occident est un ennemi, que l'Europe est décadente, que la Russie représente le pôle mondial du conservatisme, qu'il va forcément faire le passage à l'acte de la guerre. Mais Alexandre a raison, cette guerre, il la prépare depuis des mois. J'ai bien vu que quand, au printemps 2021, il commence à masser des troupes à la frontière ukrainienne, quand en juillet 2021, il publie un grand article, des choses qu'il avait déjà dites sur l'unité des peuples russes et ukrainiens, ce qui sous-entend qu'ils sont les mêmes peuples, qu'ils ont tous les deux vocation à être dirigés par Moscou au lieu de la clique fasciste telle que le Kremlin appelle le gouvernement démocratiquement élu ukrainien.
Nazi, hein.
Voilà, nazi, néo-nazi, etc. Quand il continue à masser des troupes, et ensuite quand il envoie un ultimatum à l'OTAN et à Washington, on a bien compris qu'il y avait un piège qui était mis en place, dont l'objectif était d'arriver à une position où la Russie dirait, ce qu'elle a fait il y a deux semaines, par la voix de Vladimir Poutine, « Eh bien, vous avez refusé nos propositions qui touchent à notre existence même. » Vladimir Poutine, le 21 février, a dit « Vous nous en voulez parce que nous existons, parce que nous sommes. » En russe. Et ce qui signifie qu'il a mis en scène un péril existentiel de la Russie pour pouvoir attaquer tranquillement l'Ukraine en disant que finalement la Russie combat pour sa survie. Donc, il a mis en place depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années une sorte de puzzle idéologique qui se déploie aujourd'hui dans, malheureusement, la violence et la guerre.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Michel Etchaninov. Boulat Okudjava, le soldat en papier.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Je vois tous les deux dans ce studio en train de sourire en écoutant cette magnifique chanson. Pouvez-vous nous expliquer les paroles ?
C'est une chanson d'un grand, ce qu'on appelle un barde russe, c'est-à-dire un auteur à texte avec sa guitare, Boulat Okudjava, très très célèbre et très important, notamment dans les milieux de la dissidence dans les années 70 et 80. Et là, il raconte l'histoire d'un soldat en papier qui veut changer le monde, qui veut que tout le monde soit heureux, et donc qui veut aller se battre pour ce monde dont il rêve, et il demande du feu. Oubliant qu'il est en papier, et il brûle. Et c'est une chanson contre les délires idéologiques, les utopies, les appels à la guerre purificatrice que chantait déjà Okudjava il y a des décennies, et que je pense aujourd'hui beaucoup de familles russes écoutent en se disant que malheureusement tout ça n'est pas terminé.
Alexandre, vous avez dit tout à l'heure que Poutine faisait la guerre, mais que c'était peut-être un peu court de dire Poutine, Poutine, Poutine. Toute la presse occidentale parle et individualise Vladimir Poutine comme si un seul individu pouvait introduire un désordre mondial et une tragédie humanitaire dans cette Europe où nous vivons. Qui est autour de Poutine ? Qui agit avec Poutine ? Qui décide avec Poutine ? Est-ce que c'est un homme qui partage le pouvoir ?
Je crois qu'il n'est pas possible d'imaginer une figure qui ne partage le pouvoir, qui ne partage pas. C'est surtout la question comment il le partage. Et ici, je tiens à mon hypothèse communicative, si vous voulez. Ça peut sembler léger dans le contexte actuel de désastre de la guerre, mais encore une fois, on voit bien les répercussions d'un sujet qui se répète. Qui écoute Poutine en Europe ? Est-ce que l'Europe l'a écouté ? Il y a évidemment même une partie de ceux qui interprètent la stratégie du gouvernement actuel russe en termes de la non-reconnaissance par les États-Unis, par l'Europe. Encore une fois, c'est un sujet de la communication qui revient. Et moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette interprétation que le gouvernement de Poutine a été créé par les États-Unis ou par l'Europe, parce que si on accuse, si on critique les autorités russes d'aujourd'hui de priver de la subjectivité l'Ukraine, je dirais que au niveau intellectuel, c'est la même opération de priver de la subjectivité le gouvernement russe en disant que ce n'est qu'un épiphénomène, en effet, de jeu de forces extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son entourage? Je dirais que si on le prend en termes de la communication, c'est surtout une disparition de cette communication autour de lui, des personnes, des experts, des porteurs d'une certaine forme, d'un certain type de rationalité européenne, occidentalisée, ce qu'on voit très bien, soit dans le camp des experts de la propagande, par exemple Gleb Pavlovski, qui est une figure très ambiguë, mais qui était tout de même très pro-européenne, pré-occidentale, et qui a été éloigné, viré, peu avant les grandes manifestations de 2011-2012. C'est Surkov, Vladimir Surkov, qui était le directeur, le chef de son administrateur, et qu'on croyait était omnipuissant, qui a été viré, ou plutôt aménagé dans une position beaucoup moins importante peu après le début des protestations. Ça a été le ministre de finances et d'économie, Koudrine, qui était un libéral plutôt qu'économiste, mais aussi, encore une fois, beaucoup plus occidental et pro-américain dans sa pensée, dans sa rationalité, qui a été déplacé et on a donné à lui, le gouvernement lui a accordé un poste d'auditeur des institutions publiques. C'est-à-dire, c'était une évacuation de toute une cohorte d'experts.
Par qui ont-ils été remplacés, puisque vous dites qu'il n'est pas seul, Vladimir Poutine?
Exactement. Et ça, c'est une question beaucoup plus difficilement interprétable, puisque d'abord, il existe l'administration du président, qui est une institution, encore une fois, pas du tout irrationnelle, pas du tout...
Mais ça serait trop facile d'en faire un fou.
Oui, exactement. Mais qui écrit, à part d'autres contributions, une partie de ses propos. C'est-à-dire, c'est pas lui-même qui cite certains philosophes ou qui s'adresse à telle ou telle valeur, y compris valeur négative de la civilisation. C'est un corpus très consistant d'experts, y compris des jeunes qui ont terminé les cours à l'université de Lausanne, Paris, etc., et qui peuvent tout à fait servir bien ces objectifs.
Ça serait tentant, mais pas efficace. Je crois que vous êtes d'accord tous les deux de diaboliser Vladimir Poutine, mais ça serait peut-être plus intéressant de comprendre qui parle quand parle Vladimir Poutine. Est-ce que beaucoup de Russes parlent comme lui ou ont envie d'entendre ce qu'il dit? Par qui est-il appuyé? Et combien de temps va durer cette idéologie disparate, selon vous?
Pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas qui écrit les discours, mais ce qui est dit et pourquoi c'est dit et effectivement qui ensuite le reçoit. Pourquoi c'est dit? C'est pour donner à une grande partie de la population l'idée que y a un choc civilisationnel. Je parlais hier à un philosophe de Moscou qui maintenant veut garder l'anonymat malheureusement parce que ce qu'il dit peut être passible d'être puni de la loi. Donc il m'a dit...
Oui, je rappelle que la loi c'est de punir de 15 ans d'emprisonnement.
De 3 à 15 ans de prison.
De 3 à 15 ans de prison, quiconque aura dit des mots contre...
Fausses informations, donc interprétables à loisir sur la guerre. Donc quelqu'un qui est un philosophe reconnu, qui a été obligé de demander l'anonymat, qui m'a dit, vous savez, il y a deux Russies. Il y avait une Russie qui écoute le discours de Poutine, qui est convaincue que la grande confrontation avec l'Occident est le destin de la Russie. N'oublions pas qu'il y a une tentative de militarisation de la société, avec vraiment cette idée que c'est pas seulement Poutine qui parle, c'est la première chaîne de télévision et les autres, c'est-à-dire c'est les médias qui sont écoutés par une partie de la population et qui considèrent que voilà la Russie est attaquée en permanence par un Occident dont il faut se défendre. Donc il y a une partie de la population qui l'écoute.
Ensuite, donc plus on attaque la Russie, et c'est ce qui se passe avec les décisions du Conseil européen, plus ça ravive le patriotisme d'une certaine partie de la population russe, qui conforte donc les thèses de Poutine.
En tout cas, c'est une manière d'argumenter en renversant la cause et les faits, c'est-à-dire de considérer que l'effet, par exemple, de l'agression de l'Ukraine, des sanctions en 2014, est la cause de cette volonté de la Russie de revenir au premier plan sur la scène mondiale. Donc ça, c'est une inversion typique du système soviétique, hein, ou de tout système autoritaire, qui est de toujours utiliser la réponse de l'adversaire pour la cause de sa propre action. Donc c'est une logique un peu perverse. Mais effectivement, il y a donc cette Russie qui est persuadée aujourd'hui à Moscou. J'ai discuté avec un jeune homme qui revenait de Moscou il y a deux jours. Il me disait, il y a des gens de 30 ans qui sont pour la guerre. Pourtant, ils travaillent dans le business, sont des hommes d'affaires. Et ils considèrent que plus vite la guerre sera gagnée par Poutine, plus vite les sanctions seront levées. Bref, il y a beaucoup d'illusions dans toutes les sphères de la société. Et il y a beaucoup de gens, même jeunes, qui sont aujourd'hui pour la guerre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que la Russie, qui est de plus en plus aujourd'hui coupée de l'information indépendante, est quand même baignée depuis des années dans un discours militariste. Et c'est un fait social quand même assez majeur et qui explique que il y a une partie de la population quand même qui écoute et qui croit à ce discours-là.
Nous, dans la presse occidentale, Alexandre Bykov, on a plutôt tendance, évidemment, à individualiser et à diaboliser Vladimir Poutine. On a plutôt tendance, peut-être, parce qu'on voudrait y croire, a augmenté la contestation des Russes. Vous avez parlé des universitaires. Je rappelle que les plus grands scientifiques ont signé une pétition en prenant des risques considérables. Puis ensuite, des directrices et des directeurs d'institutions culturelles à travers tout le pays, puis des étudiants. Et on a tendance peut-être à majorer cette contestation. Qui a intérêt à ce que la guerre dure en Ukraine, à l'intérieur du peuple russe, pour vous? Donc il y a les petits jeunes qui se disent que finalement, ben, en temps de guerre, on peut faire du business, hein, on peut même gagner de l'argent.
Ça, mais, je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt des gens qui se disent que plus la guerre sera terminée vite, plus ils pourront à nouveau travailler. Mais c'est...
Oui, effectivement, je me
les
demande...
Les sanctions économiques contre, oui, contre la Russie sont-elles efficaces?
Certainement oui, mais il dégrade la vie de la population en général, ce qui est inévitable. C'est aussi inévitable dans le système de, des inégalités économiques et sociales qui sont installées en Russie sous une forme flagrante, que ces coûts des sanctions seront externalisés sur les couches de population les moins protégées. C'est-à-dire que les dominants russes trouveront leur manière de se protéger. Ça, ça a été déjà le cas après les sanctions qui ont été appliquées en 2014. Et on voit bien que à partir de ce moment, les inégalités se sont augmentées et n'ont pas diminué. En ce qui concerne ce que on pourrait nommer, selon un modèle américain, le parti de guerre, je cherchais de le distinguer, si vous voulez, de le repérer dans ces jours. Et je dois avouer que, comme vous, Michel, je ne les ai pas repérés. C'est-à-dire qu'il n'existait pas une force consistante qui aurait déclaré, qui aurait sollicité les bénéfices de la guerre. Dans la plupart des cas, les discours plutôt essentialistes qui sont promus par certains idéologues, souvent anonymes, du gouvernement actuel, et qui sont recrachés ensuite par Vladimir Poutine, par ses idéologues et par une partie de population, ne semblaient pas être les propos mobilisateurs. Ça, c'est très important. Même quand Vladimir Poutine lui-même, en personne, dit que la population de l'Ukraine n'est pas autonome dans sa pensée, dans ses décisions, et le pouvoir est constitué que des fascistes et des nazis, ce n'est pas lui qui l'invente, ce n'est pas lui qui le pense. Si vous voulez, désolé pour cette métaphore peu appétissante, ça a été craché déjà par des petits idéologues de l'extrême droite en 2014 pour justifier l'invasion en Crimée, et Vladimir Poutine le reprend par terre, le digère mal et le recrache de nouveau. C'est-à-dire, c'est une forme de discours, encore une fois, une communication très peu valorisée, si vous voulez. C'est de très bas profil, et c'est peut-être à ça un peu, en partie, une explication de son efficacité.
Par exemple, quand j'écrivais dans la tête de Poutine, je l'écrivais en 2014, j'ai interviewé quelqu'un qui est assez connu en France, qui s'appelle Alexandre Douguin, qui est un idéologue qui veut mélanger ce qu'il appelle le racisme et beaucoup de références d'extrême droite. Et je l'ai interviewé, il m'a dit, vous savez, dans quelques années, l'armée russe va prendre la rive orientale du Dniepr, c'est-à-dire jusqu'à Kiev, et s'en emparer, l'annexer, puis l'autre côté, ils vont en faire un État ukrainien, mais enfin qui n'aura une existence que folklorique, me disait Douguin, parce qu'elle n'aura aucun pouvoir, ce sera l'ouest de l'Ukraine. Et c'est-à-dire que, vous avez raison Alexandre, des discours idéologiques qui extrêmes, comme celui que j'entendais en 2014 auprès d'Alexandre Douguin, est devenu aujourd'hui carrément un discours officiel. Le discours sur les néo-nazis, aujourd'hui Vladimir Poutine décrit cette guerre comme la Seconde Guerre mondiale. Jeudi dernier, il a fait un discours assez délirant où il disait que l'armée russe libérait le peuple ukrainien de nazis qui se servaient de la population civile comme de boucliers humains. Bref, il est dans une fiction idéologique qui, c'est vrai, a été énoncée déjà de nombreuses fois par des idéologues pas forcément très recommandables.
Dernière question pour vous deux. Cela fait 2 semaines que l'Ukraine est en guerre, agressée par la Russie. Quel avenir pour la paix?
Moi, je suis très, très pessimiste pour la raison suivante. Vladimir Poutine a très longuement préparé cette opération. Elle couronne une idéologisation d'une volonté d'idéologiser une partie de la société. Elle couronne une volonté d'imposer une vision du monde. Alors, elle peut être totalement fantasmatique, elle peut être coupée du réel, mais c'est quelque chose qu'il a installé, enfin, et que son entourage a installé, évidemment, avec lui. Et Vladimir Poutine fait de cette grande guerre la clé de voûte, finalement, de son œuvre à la tête de la Russie. C'est-à-dire que ça fait, malheureusement, des années que l'hostilité avec l'Occident est présentée comme le destin de son pays. Donc, à moins qu'il ne soit arrêté par le réel, c'est-à-dire soit la résistance des Ukrainiens, soit une aide massive de la part de démocraties, notamment de démocraties occidentales, sauf si on l'arrête, il va continuer à vouloir installer dans les faits ce qui était juste alors que du discours, que de l'idéologie, c'est-à-dire l'apologie de l'Empire et l'apologie de la guerre.
Alexandre, dernier mot.
À différence de Michel, je trouve que Poutine n'a jamais cessé d'être pragmatique et assez utilitariste. C'est encore une fois, selon moi, un mauvais calcul avec des conséquences catastrophiques. Et une partie de ce calcul, c'est les ventes de gaz continues en Europe. Et on voit bien que c'est en partie accepté pour le moment par les gouvernements occidentaux.
Même s'il y a de plus en plus de prises de position, en tout cas de certains hommes politiques en France qui proposent une alternative.
Oui, mais autant que Gazprom n'est pas sanctionné, on est dans une modalité de commerce de gaz russe.
Ça viendra peut-être.
Oui, oui. Mais en tout cas, voilà, si on discute les perspectives, l'horizon d'attente, c'est plutôt ça. Et alors, autant qu'il y a d'arguments économiques dans la poche, je pense que la guerre a une tendance de se transformer en guerre longue. Ce que va coûter énormément pour la population de l'Ukraine, les citoyennes ukrainiennes, mais aussi russes, parce qu'on voit bien, même le ministère de défense russe commence à révéler les chiffres des pertes humaines, et là, on se demande aussi du niveau de l'équipement, de la stratégie des généraux russes, justement quel type de guerre ils acceptent à mener. Et là, c'est une hypothèse. Alors, tant que les liens économiques continuent à se reproduire, à se maintenir au profit de certaines sociétés européennes, de certains pays européens, la guerre a une tendance de durée longue. Les hésitations autour de l'acte légal de la protection de l'Ukraine, de l'intégration à l'Union européenne ou d'autres conditions qui permettront de créer un autre équilibre de force, ce sont des conditions plutôt décisives. Et un autre moment qu'il faut, à mon avis, aussi prendre en considération, alors une partie de la population russe, le plus contestataire ou le plus craintif, sont partis. Ils se trouvent beaucoup, peu en Europe encore occidentale, mais beaucoup dans des zones neutres, Géorgie, Arménie, Turquie en partie, qui sont coupés déjà de facto des transactions économiques et qui gardent assez peu de ressources sur eux. Alors, une question, est-ce que ces gens seront obligés de revenir en Russie et subir des répressions? Est-ce que ces gens seront acceptés par les pays, on peut dire un peu plus économiquement, avec des bénéfices économiques plus élevés? Et alors, ce sera aussi une des forces, si vous voulez, de la paix. Les personnes qui pourront contribuer aux négociations, à la création de l'ambiance plus décidément contre la guerre. Est-ce que c'est une des perspectives? Et à la fin, c'est aussi l'ère de répression en Russie même. Parce que, indépendamment des résultats de l'avancement de la guerre, ce qu'on craint peut-être le plus pour les Russes qui restent dans le pays, c'est soit une guerre victorieuse, soit une guerre qui est perdue, les répressions sont plus ou moins imminentes dans tous les deux cas. Et alors, est-ce que les rapports entre la Russie sous répression, la Russie qui se ferme, la Russie qui s'isole et qui passe un moment, disons, je ne dis pas stalinien, toutes les analogies seront fausses, mais quand même un moment d'une dureté spéciale qui continue encore à vendre le gaz, est-ce que ça ne contribuerait pas à l'expansion du conflit, à l'expansion de la guerre? C'est une grosse question et il faut le prendre en considération avec toute une approche sérieuse qui est possible.
Merci infiniment à vous deux.
chime. Bells, they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shapes shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime.
C'est avec Pete Doherty et Fred Lowe que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore à nos deux invités. Je rappelle que le livre de Michel Elchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine, aux éditions Actes Sud dans la collection Babel, va être disponible dans 8 jours avec un nouveau chapitre intitulé La montée aux extrêmes. Merci à Alexandre Bikoff. On attend d'ailleurs votre prochain livre parce que votre avis nous est précieux en ces temps de tragédie en Ukraine. Merci à Marie Clément, merci à Marie Mougin, merci à Élodie Royer, merci à Jean-Baptiste Audibert et merci bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Sofiane Akib est à la régie technique ce soir. Et bien sûr, après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.